France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aujourd'hui, la science est aux microbes, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. L'hygiène s'amuse à un personnage de la pièce qui suit. Simple hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories inverses, celles-là, se succéderont aussi peu probantes. Fin de citation. Aujourd'hui, c'est 1898, l'année où est jouée pour la première fois la pièce d'Octave Mirbeau, L'épidémie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus qu'un siècle donc, aujourd'hui on se rit de l'antisepsie et de l'hygiène et de quelques foyers d'infection jusqu'à ce que... Le Théâtre populaire de juin 1944, première diffusion sur France 2, régionale, le 14 juillet 1961.
Le Théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, L'épidémie, une pièce en un acte d'Octave Mirbeau, dans une réalisation de Roger Dattis.
La salle des délibérations du conseil municipal dans une grande ville maritime. Le conseil est réuni.
Je crois, messieurs, que nous pouvons ouvrir la séance.
11h moins le quart. Et je déjeune à 11h30. Et nous étions convoqués pour 9h. C'est dégoûtant.
Le lendemain d'un réveillon, il fallait s'attendre à quelques inexactitudes. Ce n'est pas de ma faute.
Et nous ne sommes pas au complet.
Nous sommes en nombre pour délibérer.
Eh bien, délibérons.
Ah, voici le docteur Triceps.
Mille pardons, mon cher maire. Mille pardons, messieurs. J'ai été retenu par une opération délicate. Et depuis ce matin, je suis en train de recueillir la sensibilité de ma cuisinière qui s'était extériorisée dans un moule à gaufres. Comprenez-vous?
Vraiment?
Ma foi, oui. Ah, ce n'était pas une petite affaire.
Un moule à gaufres? Ce que c'est que de nous? Si vous voulez, messieurs, nous allons ouvrir la séance.
Je vous en prie. Et encore pardon, messieurs.
Messieurs, la séance est ouverte. J'ai là quelques lettres d'excuses de nos collègues absents. Elles n'ont d'ailleurs aucun intérêt. Dois-je vous en donner connaissance?
Oh, inutile.
Des rhumes, des bronchites, des lombagos, des dames qui accouchent. Au moins, on ne pourra pas dire que les conseillers municipaux favorisent la dépopulation française. Elles figureront au procès-verbal.
C'est bien de l'honneur.
Le règlement, messieurs. Je dois une mention particulière à notre honorable collègue, M. Isidore Théophraste Barbaroux, qui fut arrêté hier soir.
Encore? C'est la troisième fois.
Et dont l'absence aujourd'hui est sinon légitime, du moins justifiée par cette formalité judiciaire. Remarquez, messieurs, que je n'incrimine pas, je constate.
Quel est le soi-disant motif de cette arrestation?
Toujours le même. Si mes renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu de les croire exacts, ce motif serait purement commercial. Notre honorable collègue aurait été arrêté pour avoir vendu à la troupe de la viande corrompue, ou soi-disant telle. Nous n'avons pas, je pense, à nous prononcer sur cet incident. Purement commercial, je le répète. Il faut attendre les décisions de la justice.
Je demande la parole.
D'ailleurs, le crime d'un individu, si crime il y a dans l'espèce, ne saurait engager la collectivité.
Très bien. Entrer dans le fond même du débat, laissez-moi vous déclarer ceci. Ma conviction est que ce que l'on poursuit en notre collègue Barbaroux, ce ne sont pas ces viandes corrompues, mais bien ses opinions avancées. Comprenez-vous? Mais certainement.
C'est peut-être aller un peu loin, mon cher docteur.
Mais nullement. En ma qualité de médecin et de savant, je sais ce que je dis. Et vous m'accorderez que ces questions me sont familières. Eh bien, je dis que tout cela est singulièrement arbitraire et anti-scientifique au premier chef. D'abord, les viandes pourries.
En avez-vous mangé?
Mais parfaitement. Et vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal. Hein, le coffre est bon.
Bravo.
Non, faudrait pourtant s'entendre une bonne fois. Non seulement je ne crois pas à la nocuité de la pourriture, je lui crois au contraire des propriétés stomachiques de premier ordre. Oui, oui. Comprenez-vous? D'ailleurs, pourquoi la pourriture est-elle reconnue louable chez la bécasse et criminelle chez le bœuf? Mais c'est idiot!
Oui.
Toutes les pourritures doivent être égales devant la loi!
Bah, évidemment!
Est-ce une allusion?
C'est. En présence d'une aussi étrange anomalie, j'ai donc le droit d'affirmer que le procès intenté à notre honorable collègue Barbaroux n'est pas autre chose qu'un procès de tendance. Bah, je ne parle pas des entraves qu'il apporte à la liberté du commerce. Diable! Oui, du reste, je reviendrai sur cette question en temps et lieu, avec tous les développements juridiques, économiques, thérapeutiques et biologiques qu'elle comporte. Mais je demande que cette observation préliminaire soit consignée au procès-verbal.
Le conseil n'y voit pas d'inconvénient. Eu égard surtout à la personnalité si considérable de notre éminent collègue, le docteur Triceps, dont les moindres opinions sont pour tout le monde ici un enseignement et une lumière. Consigné. Bien.
Je remercie, monsieur le maire, de ces nobles paroles. Elle me venge de bien des injustices professionnelles. Dois-je ajouter que notre collègue Barbaroux s'est toujours montré un boucher d'une loyauté parfaite envers ses clients civils. Et s'il est vrai qu'il a vendu des viandes inférieures et corrompues, ça n'a jamais été qu'à des militaires, dont je m'étonne que les estomacs soient devenus tout d'un coup aussi intolérants. Et à des pauvres. Ce qui n'a pas d'importance.
Dois-je aussi consigner cette dernière observation?
Ma foi, qu'en pensez-vous? Bon. Nous verrons ça tout à l'heure. Monsieur le secrétaire, je vous donnerai la rédaction du tout à la fin de la séance.
Très bien, j'aime mieux ça. L'incident est clos. Et maintenant, messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire et secrète.
De quoi s'agit-il?
Silence.
Messieurs, j'ai une nouvelle délicate et fâcheuse à vous apprendre. Non, mais rassurez-vous, monsieur, quand je dis fâcheuse, c'est pour conformer mon langage...
Après le compte.
Pour conformer mon langage au langage usuel que des sentimentalités trop ombrageuses,
très bien.
Que de trop systématiques oppositions, enfin des rivalités même, et si j'ose dire de véritables empiétements de pouvoir, des abus d'autorité, en un mot.
Mais parlez clairement, on ne vous comprend pas.
Veuillez ne pas m'interrompre. Messieurs, dans ce que j'ai à vous apprendre, il n'y a rien de grave, rien qui puisse vous effrayer. La nouvelle en soi n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas à proprement parler une nouvelle. Enfin, une de ces nouvelles qui... Bref, messieurs, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, un ennui périodique.
Très bien.
Une crise annuelle, un retour offensif...
La question, pas d'allusion politique ici. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique.
Il ne s'agit pas de politique.
Mais de quoi s'agit-il alors? Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi ce mystère?
Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Mais si vous ne savez pas de quoi il s'agit, taisez-vous.
Ben, j'obtiendrai si je veux. Vous n'avez pas de soin de donner.
Messieurs, je vous en prie.
Ben, nous ne sommes pas dans votre cabaret ici.
Cabaret.
Avec tous les souteneurs et toutes les filles de la ville.
Messieurs. Dans votre cabaret, comme vous dites. Dans une autre qui est venir. Cabaret. Le meilleur café de la ville. Le plus beau café de la ville. Un café Louis XVI. Venez-y.
Oui, j'irai. J'irai pour le faire fermer. Je ne puis comprendre qu'on tolère des établissements pareils. C'est une honte, une immoralité, un attentat à la pudeur.
Monsieur, vous vendez des farines avariées, des petits morceaux de terre pour du café et des feuilles d'épinards sous le nom de Thérus.
Moi?
Oui, vous. Et vos petits beurres, qui datent de la déclaration des droits de l'homme.
Cabaret.
Un établissement de premier ordre. Où j'ai installé un cinématographe.
Messieurs, de grâce. Messieurs, je vous en supplie. Je fais appel à votre patriotisme, au sentiment d'union, de concorde, à votre dévouement municipal. Non, messieurs, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la ville, des intérêts de la ville, du salut de la ville que vous aimez, que vous représentez, que vous administrez, messieurs. une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville.
Oh, c'est une épidémie sur la ville?
Sur la ville?
Vous voyez bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas de politique.
Sur la ville? Une épidémie sur la ville?
Sur la ville?
Quand je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait exact. Ah. Dieu merci. L'épidémie n'est pas sur la ville. Elle est...
Au fait, elle est où? Elle est sur quoi? Enfin, est-elle sur la ville ou non? Va préciser, pas d'équivoque, dites la vérité. Ben, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des hommes, que diable. Et nous l'avons prouvé dans des circonstances plus graves. Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à entrer dans la garde nationale. Elle est sur quoi, cette épidémie? Et sur quoi? Allons, parlez!
Sur quoi?
Ne laissez pas parler. Elle est sur la ville, et pourtant elle n'y est pas absolument. Elle y est sans y être. Je m'explique.
Mais écoutez donc.
L'épidémie est sur l'arsenal, et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine.
Ah, très bien.
Il fallait le dire tout de suite, et nous épargner d'inutiles angoisses. Certes, nous ne craignons pas les épidémies. Nous leur avons toujours opposé un viril dédain. Toujours, nous les avons traités par le mépris. Mais nous avons de la famille. Nous avons des amis, que diable. Et l'arsenal n'est pas la ville. La caserne n'est pas la ville. Et puis, il y a tous les ans des épidémies sur la caserne. Nous n'y pouvons rien. Ça ne nous regarde pas.
Mais ça ne nous regarde pas.
Du calme, messieurs. Ne nous emportons pas. Procédons avec méthode. Combien de décès?
Hier, 12 soldats sont morts. Ce matin, 16.
Ah! Combien de malades?
À l'heure actuelle, on compte 135 malades.
Ah! C'est normal.
Pas d'officier?
Non, pas d'officier, heureusement. Ah. Le mal s'arrête aux adjudants. Il ne s'attaque qu'aux simples soldats et aux sous-officiers, comme toujours.
Bon, c'est normal.
Je remercie, monsieur le maire, de ses explications loyales et rassurantes.
Enfin, je ne vois pas du tout, mais pas du tout pourquoi elle nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre compétence. Enfin, j'allais dire de notre juridiction. Elle n'offre aucun caractère municipal.
Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois.
Alors donc.
Mais nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je connais la marche, et si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies. C'est un esprit hiérarchique. Si, contrairement aux avis de la science, une pareille éventualité se produisait, si des symptômes alarmants et que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, eh bien, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. Dans l'état actuel, nous ne devons pas intervenir. À l'autorité maritime d'aviser si elle le juge utile.
Justement, messieurs, et c'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère, je l'ai vu hier soir. Il m'a dit que ça ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection. Que l'eau bue par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables. Bref, messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes. Que nous amenions de l'eau de source dans les casernes. Il exige encore.
Il exige. Mais c'est de la solange.
De la folie.
Du gaspillage.
Nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies. La commune est obérée. Il nous faut reconstruire le théâtre.
Décorer l'hôtel de ville. Car enfin, est-ce un hôtel de ville? Mais à quoi ressemblons-nous dans cette baraque?
Ah, il est inouï, le préfet, il est inouï.
Ben, si les soldats n'ont pas d'eau, qu'ils boivent de la bière.
Et si les casernes sont malsaines, eh bien, qu'ils campent.
Mais oui, c'est ça.
Mais sans doute, vous avez raison. Enfin, en principe, vous avez raison. Mais vous connaissez le caractère autoritaire, violent, tout d'une pièce de notre préfet maritime. Il m'a fait entendre qu'il déplacerait des régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs, plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne peux pourtant pas laisser crever mes soldats comme des mouches, m'a-t-il dit.
Bon, alors donc, il veut nous faire peur. Enfin, est-ce qu'on déplace un arsenal français comme un cirque américain? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois?
Et puis c'est malheureux, soit. Plaignons-les, je le veux bien. Mais les soldats sont faits pour mourir.
C'est leur métier de mourir.
Leur devoir de mourir.
Leur honneur de mourir.
Aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre en France, les épidémies sont des écoles, de nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. S'il n'y avait pas d'épidémie, messieurs, où donc les soldats apprendraient-ils aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice de leur personne à la patrie?
Très bien, bravo.
Où donc cultiveraient-ils cette vertu si française, le courage? Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté.
De déconsidérer l'armée.
De diminuer l'honneur national. De tuer le patriotisme. Eh bien, non.
Je m'associe
aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est au microbe, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. Non, c'est là une simple hypothèse, messieurs. Une hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories, inverses à celle-là, se succéderont, aussi peu probantes, aussi peu démontrées par les faits. Eh bien, les communes doivent-elles subordonner leur activité progressiste et leurs ressources budgétaires aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants? Doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les 8 jours? Je ne le pense pas. Et pourtant, moi aussi, je suis un savant.
Oui, très bien, c'est envoyé.
Mais nos pères, messieurs, ignoraient ces choses. Mais ils ignoraient les bacilles, les bouillons de culture, les sérums, les inoculations, les vaccinations, les microbiographies et les commissions d'hygiène. Mais ils ne savaient pas ce que c'est que les congrès médicaux, ce que c'est que M. Brouardin. Mais ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Mais ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain, comprenez-vous? Or, l'histoire ne nous dit pas qu'il se soit plus mal porté pour ça. Au contraire.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais on nous objecte toujours. Et l'Angleterre? Mais messieurs, nous ne sommes pas en Angleterre. L'Angleterre est l'Angleterre, et la France est la France. À chaque peuple son génie. Restons français.
Vive la France.
Laissons donc cette épidémie suivre son cours naturel, son évolution nécessaire. Il ne faut jamais violenter la nature. Croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait.
Bravo, docteur.
Permettez-moi d'ajouter une observation qui va peut-être éclairer ce débat d'une plus vive lumière. Malgré ses allures cassantes, le préfet maritime n'est pas un mauvais homme. Et je crois que l'on peut s'entendre avec lui. J'ai le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'épidémie, en tant qu'épidémie, du moins. Non. Seulement, il redoute l'opinion. Il craint la presse. Il a peur d'une interpellation à la Chambre. Vous savez avec quelle violence la marine est attaquée en ce moment. Rien qu'à la pensée que M. Lecroix puisse revenir ici tripatouiller son arsenal, il s'affole. Mettez-vous à sa place.
Eh bien,
si j'ai compris le fond de son idée, pourvu que nous votions les dépenses nécessaires aux travaux susmentionnés, le préfet se tiendrait pour satisfait. Ce qu'il demande, c'est une formalité. Sa prétention n'irait pas jusqu'à exiger l'exécution de ce vote. Il veut se mettre en règle vis-à-vis de l'opinion, de la presse, du Parlement et de M. Lecroix. N'est-ce point en somme un désir légitime, une prudence louable.
Et dangereuse pour nous. Mais qui nous garantit la pureté de ses intentions?
Moi, dis-je.
C'est pas assez. Avez-vous un engagement écrit?
Non.
Vous avez donné sa parole d'honneur?
Non. Mais j'ai quelque chose de plus, quelque chose de mieux, messieurs. Le souci de sa tranquillité.
Il faut se méfier.
Mais pourquoi? De quoi? Je vous assure que l'épidémie passée, il ne sera plus question de rien. Et nous recommencerons l'année prochaine, nous recommencerons tous les ans.
Mais il faut se méfier. Il faut se méfier.
Autrement, songez aux luttes quotidiennes, aux hostilités sourdes, terribles, qui vont mettre la zizanie dans la ville. Sans compter qu'elles seront préjudiciables à nos intérêts électoraux. Sans compter aussi que toutes les femmes, que toutes nos femmes sont avec les officiers de marine.
Mais parlez pour la vôtre.
Je méprise ces insinuations vulgaires et injustifiées. Où en étais-je? Avec les officiers de marine. Réfléchissez, messieurs. Ne vous heurtez pas à des partis pris, respectables sans doute, mais impolitiques. Dans les conditions que j'ai dites, je crois que nous pouvons voter les crédits. Que nous pouvons même nous montrer généreux, puisqu'il ne nous en coûtera rien.
Je proteste. Ce serait établir un précédent déplorable.
Toutes les casernes de France sont infectées.
Et toutes les eaux imbuvables.
La fièvre typhoïde est une institution nationale. Ne touchons pas aux vieilles institutions françaises.
Non, messieurs, ne touchons pas à ce qui fait la force de notre belle armée. À ce qui est son honneur, l'intrépidité devant la mort. Ne donnons pas à l'étranger le spectacle douloureux d'une armée française battant en retraite devant quelques problématiques microbes. D'une armée, messieurs, synonyme d'Austerlitz et de Marengo. Non, d'antisepsie et d'hygiène.
Bravo.
Allez dire à votre mère.
Après les admirables paroles que vous venez d'entendre et l'accueil enthousiaste que vous leur avez fait, je crois qu'il est inutile de mettre au voie la proposition concernant les crédits.
Je m'incline, messieurs.
Pas de vote, pas de crédit.
Pas d'équivoque, une situation nette.
Il y a encore de grands cœurs français.
Monsieur le maire. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que ce pli ?
Je ne sais pas.
Qui l'a apporté ?
Un homme en deuil.
Un homme en deuil ? Ah. Un homme de la ville ?
Je ne sais pas.
Vous ne le connaissez pas ?
Non.
Ah. Et il est reparti sans rien dire ?
Sans rien dire.
C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi, je pressens un malheur. Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre.
Ouvrez-la.
Je n'ose l'ouvrir. Allons. Ah ! Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Oh mon Dieu !
Silence ! Qu'est-ce qu'il y a ?
Messieurs.
Êtes-vous malade ?
Pourquoi êtes-vous si pâle ? Messieurs.
Pourquoi tremblez-vous ?
Messieurs, une nouvelle incroyable, affreuse,
mais...
foudroyante.
Parlez, parlez donc.
Parlez.
Messieurs, un bourgeois est mort.
Qu'est-ce que vous dites ?
Un bourgeois est mort, emporté par l'épidémie.
C'est pas possible.
Ne touchez pas à cette lettre.
Brûlez cette lettre. Elle n'est peut-être pas désinfectée. Au feu ! Désinfectons, messieurs. Désinfectons.
Nous ignorons son nom. Qu'importe. Nous connaissons son âme. Messieurs, c'était un bourgeois vénérable, gras, rose, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour, à heure fixe, il se promenait souriant sur le cours. Et sa face réjouie, son triple menton, ses mains potelées, était pour chacun de nous un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne dût jamais mourir. Et pourtant, il est mort. Un bourgeois est mort.
Un bourgeois est mort. Un bourgeois est mort.
Un bourgeois est mort.
Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie du bourgeois admirable, fraternel, que nous pleurons tous. D'autres, plus autorisés que moi, lui rendront ce mérité et suprême hommage. Messieurs, si le bourgeois dont nous déplorons la perte tragique et prématurée ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville que, grâce à votre confiance, j'ai l'honneur d'administrer, par des libéralités matérielles, des actes directs de bienfaisance, ou par l'éclat d'une intelligence supérieure et l'utilité d'une coopération quelconque au développement de notre vie municipale, qu'il me soit permis néanmoins, et je crois être l'interprète des sentiments unanimes de notre chère population, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due. Je me le figure ainsi, avec quelle émotion. Courtois et rondelet, il avait, entre des jambes grêles, un petit ventre bien tendu sous le gilet. Sur le plastron de la chemise, son menton s'étageait, congrûment, en un triple bourrelet de graisse jaune. Et ses yeux, au milieu des paupières boursouflées, jetaient l'éclat triste, livide et respectable de deux petites pièces de 10 sous. Il était beau. Nul ne représenta plus exactement l'idéal que l'économie politique. Les gouvernements libéraux et les sociétés démocratiques se font de l'être humain, c'est-à-dire quelque chose d'impersonnel, d'improductif et d'inerte, quelque chose de mort, qui marche, parle, gesticule, digère, pense et paie, selon des mécanismes soigneusement huilés par les lois, quelque chose enfin de fondamental qu'on appelle un petit rentier.
Bravo, c'est vrai.
Oui, messieurs, Joseph, appelons-le Joseph, comme son grand, son immortel aïeul.
Joseph donc, en qui je veux considérer plus qu'un homme, un principe social, nous aura donné toujours l'exemple, le haut et vivifiant exemple d'une vertu, ah, bien française celle-là, d'une vertu précieuse entre toutes, d'une vertu qui fait les hommes forts et les peuples libres, l'économie. Joseph aura été parmi nous le constant, le vivant symbole de l'épargne, de cette petite épargne, que nulle déception n'atteint, que nul malheur ne lasse, et qui sans cesse trompée, volée, ruinée, ne continue pas moins d'entasser pour les dépradations futures, au prix des plus inconcevables sacrifices, un argent dont elle ne jouira jamais et qui jamais n'a servi, ne sert et ne servira qu'à édifier la fortune et assouvir les passions des autres. Abnégation merveilleuse, messieurs, tirelire idéal au bas de l'aile.
Quel malheur!
Dans une époque troublée comme la nôtre, ce sera l'honneur de Joseph d'être demeuré fidèle, perface et néfaste, comme dit le poète, à des traditions nationales et gogotiques où notre optimisme se réconforte, si j'ose m'exprimer ainsi. Car ainsi que l'écrivit un grand philosophe dont je ne sais plus le nom, l'épargne est la mère de toutes les vertus et la sauvegarde de tous les gouvernements dignes de ce nom. Pleurons-le et admirons-le, messieurs.
Pauvre Joseph.
Admirons-le, car jamais il ne goûta la moindre joie, ne prit le moindre plaisir. Même au moment de sa jeunesse, même au moment de sa richesse, il ne connut pas ce que les plus pauvres des mendiants connaissent parfois, une heure de bon temps. Il se priva de tout et vécut plus misérable que le vagabond des grandes routes, mais content dans le devoir accompli. Jamais non plus il ne voulut accepter un honneur, une responsabilité dans la crainte d'avoir à payer cela par des obligations, des charges, des affections peut-être, qui l'eussent distrait de son œuvre. Et, ô sublime enseignement, plus il épargna, plus il se ruina, et plus il se ruina, plus il épargna encore.
Quel malheur!
Ce fut un héros, messieurs. Ce fut le héros. Gambetta a dit que les temps héroïques étaient passés. Eh bien, il ne savait pas ce que c'est qu'un petit rentier. Eh bien, maintenant, Joseph... Adieu.
Oui, un héros. Un héros modeste, silencieux et solitaire. Comme il fut écarté de sa maison, les amis, les pauvres et les chiens. Comme il sut préserver son cœur des basses corruptions de l'amour. Son esprit, des pestilences de l'art. Il détesta, ou mieux, il ignora les poésies et les littératures, car il avait horreur de toutes les exagérations, étant un homme précis et régulier. Et si les spectacles de la misère humaine ne lui inspirèrent jamais que le dégoût, en revanche, les spectacles de la nature ne lui suggérèrent jamais rien. Chaque matin, il s'en remettait au petit journal du soin de sentir et de penser pour lui.
Oh, quel malheur!
En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du conseil les deux propositions suivantes. Primo, les obsèques de Joseph seront célébrées solennellement et en grande pompe aux frais de la ville. Secondo, une statue lui sera élevée sur l'une de nos principales places. Je propose en outre que l'on donne à une rue de notre belle cité son nom, quand nous le connaîtrons.
Maintenant, messieurs, il ne faut pas nous laisser abattre par cette mort imprévue et irrégulière. Anti-scientifique, même. Comprenez-vous? Nous devons lutter.
Oui, oui, oui.
Sur somme corda.
Oui, oui, oui.
Aux circonstances douloureuses, opposons les résolutions viriles.
Oui, oui, oui.
Au péril qui nous menace, l'énergie qui en triomphe.
Oui, oui.
Êtes-vous prêts à tous les sacrifices?
À tous.
À tous. Oui, à tous.
Il nous faut de l'argent.
Nous en trouverons.
Nous en inventerons. Nous en forgerons.
Les empreintes.
Les octrois.
Les expropriations.
Oui, oui.
Il faudra démolir les vieux quartiers de la ville, ces foyers d'infection.
Nous les démolirons.
Et les reconstruire.
Nous les reconstruirons.
Oui, oui. Percer de vastes boulevards.
Planter des jardins publics.
Des avenues.
Oui, déjà.
Aérer les cours, immuniser les égouts.
Multiplier les squats.
Introduire des essences fébrifuges.
Désagglomérer les collèges, les couvents, les maisons de prostitution, les casernes.
C'est ça.
Il faudra faire jaillir de partout des sources d'eau pure, des sources larges et profondes comme la mer.
Elles jailliront.
Si elles ne jaillissent pas, nous irons les capter au cœur vierge des montagnes.
Oui.
De la Suisse.
Des Carpates.
Du Coca.
Oui.
Il faudra des étuves puissantes, des appareils stérilisateurs toujours en marche.
Des filtres monumentaux.
Des entrepôts d'acide phénique, des laboratoires de chimie antiseptique.
Oui.
Nous établirons des conseils d'hygiène. D'hygiène en permanence.
Bravo. Des commissions de salubrité, des syndicats de prophylaxie.
Des congrès médicaux.
Des instituts pastoriens.
Des lazarets autour de la ville.
Votons. Guerre aux migrants. Guerre à la mort. Vive la science.
Vengeons Joseph.
Votons. Votons.
Oui, messieurs, nous allons voter. Nous allons voter des choses inouïes, des mesures exceptionnelles, révolutionnaires même, des sommes formidables. Mais auparavant, je propose au Conseil de flétrir par un ordre du jour Isidore Théophraste Barbaroux, dont les agissements criminels et les viandes contaminées ont peut-être aidé au développement de cette épidémie, à la virulence de cette contagion.
Barbaroux est un misérable, un empoisonneur, un assassin.
Un socialiste, un japonais.
À bas Barbaroux.
Mort à Barbaroux.
Et maintenant, votons, mes amis.
Je demande 10 millions.
Mais que voulez-vous faire avec 10 millions? Non, 20 millions.
50 millions.
Eh bien, 75 millions.
Non, 100 millions.
Oui, 100 millions. Arrêtons-nous à ce chiffre de 100 millions. Et si ces 100 millions ne suffisent pas, nous en voterons d'autres.
Mais où trouverons-nous tous ces millions?
Nous les trouverons, monsieur, dans notre patriotisme.
Bravo!
Dans notre héroïsme.
Bravo!
Dans notre volonté, dans notre foi.
Bravo!
Au scrutin, mes amis, au scrutin.
Oui, oui,
au scrutin.
C'était L'Épidémie, pièce en un acte d'Octave Mirbeau, présentée par le Théâtre Populaire de juin 1944, une production de Maurice Bertrand. Avec la distribution suivante, le maire, Robert Vattier, le docteur Triceps Georges Cuzin, le membre de l'opposition, Tristan Seven, le membre de la majorité, Roger Weber, le très vieux conseiller, Georges Hadet, les conseillers, Jean-Louis Maury, Marcel Alba, Pierre Stéphane, Pierre Fervac, l'huissier, Valé Valdi, la récitante, Simone Landry. Réalisation Roger Dattis, première diffusion sur France 2 Régionale, le 14 juillet 1961. Signalons que les éditions Robert Laffont ont publié en un volume de la collection Bouquins « Le Jardin des Supplices »,« Le journal d'une femme de chambre » ainsi que « La 628 E8 » et « Dingo » d'Octave Mirbeau.